Nous avons les deux textes liturgiques pour ce dimanche de la Sexagésime, épître tiré de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Mes frères, vous supportez volontiers les insensés, tant vous-même sages. Vous souffrez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on prenne votre bien, qu'on vous traite avec hauteur, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à ma honte comme si nous avions été faibles sur ce point, mais ce que peut oser quelqu'un, je parle à l'insensé, je l'ose moi aussi. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la race d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Je parle bien peu en sage, je le suis plus encore, j'ai souffert plus de travaux, plus de prisons, des coups sans mesure, j'ai été souvent en danger de mort, j'ai reçu des juifs 5 fois, 40 coups de fouet moins 1. 3 fois j'ai été battu de verre, j'ai été lapidé 1 fois, j'ai fait 3 fois naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit au fond de la mer. J'étais souvent en voyage, dans des périls sur les fleuves, des périls provenant des voleurs, des périls de la part de ma nation, des périls de la part des païens, des périls dans les villes, des périls dans les déserts, des périls sur mer, des périls parmi les faux frères, dans les travails et la fatigue, dans les veilles nombreuses, dans la faim et la soif, dans des jeûnes nombreux, dans la froid et la nudité. Outre ces mots qui sont extérieurs, il y a aussi ceux qui me préoccupent chaque jour, le soin de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui est scandalisé sans que je brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ce qui fait ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est béni dans tous les siècles, sait que je ne me mens pas. À Damas, celui qui était gouverneur du pays pour le roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Et l'on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long d'une muraille. C'est ainsi que j'échappais de ses mains. Il faut se glorifier, cela ne convient pas. Cependant, j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Jésus-Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi. Si ce fut avec son corps, je ne sais. Si ce fut sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut avec son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut ravi dans le paradis, entendu des paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Pour un tel homme, je me glorifierai, mais pour moi, je me glorifierai de rien, si ce n'est de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit en moi ou de ce qu'il entend dire de moi. Et de peur que la grandeur de ces révélations ne m'enorgueillisse, il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. C'est pourquoi 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce vous suffit. Car la force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses afin que la force du Christ habite en moi. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile, selon Saint-Luc, en ce temps-là, comme une grande foule s'était assemblée et qu'on accourait des villes auprès de Jésus, dit en parabole, celui qui sème a la semé sa semence. Tandis qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre, et ayant levé, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre tomba au milieu des épines, et les épines croissantes avec elle l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, ayant levé, elle porta du fruit au centuple. En disant cela, il criait, que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandèrent ensuite ce que signifie cette parole. Et il leur dit, à vous il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, et aux autres il n'est proposé qu'en parabole, afin que regardant ils ne voient point, et qu'entendant ils ne comprennent point. Voici le sens de cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui écoutent. Ensuite le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient, qu'ils ne soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, entendant la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. Ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui ont écouté la parole et qui s'en vont ensuite étouffés par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits. Ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Veuillez vous asseoir. Bon, attention pour ceux qui sont intéressés par les retraites. plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils souhaitaient venir, mais je n'ai pas encore reçu les inscriptions parce que ça remplit vite. Rappelez-vous que je n'ai que 6 chambres dans le gîte que je loue, donc je ne peux pas prendre plus de 6 personnes. Donc les retraites de la Semaine Sainte et de juin sont pleines toutes les deux. J'ai encore de la place, une ou deux pour celle d'avril, et j'ai encore de la place pour celle du mois de mai et celle du septembre et octobre. On n'attendait pas, s'il vous plaît, le dernier moment pour vous inscrire, pour être sûr d'avoir de la place. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, en suivant les pères de l'Église, essayons d'expliquer un petit peu cette magnifique parabole des talents. Notre Seigneur, la parabole du semeur correspond à la parabole des talents, en fait. Donc, ce semeur qui va semer à l'époque, il semait à la main, et ce semeur va jeter sa graine, une partie de la graine va tomber là où il ne faut pas, va tomber sur le chemin, va être foulée par les gens. Une partie va tomber sur la pierre, va être foulée par les gens, mangée par les oiseaux. Une partie va tomber dans le caniveau où il y a un petit peu d'humidité, mais avec des ronces, ça ne pousse pas. Et puis une partie va tomber dans la terre, la bonne terre. Et là, encore une fois, on voit les différences. Il y a du grain qui va donner du 30%, du grain qui va donner du 60%, du grain qui va donner du 100%. Alors essayons un petit peu d'expliquer. La plus belle grâce que nous avons reçue dans notre vie, c'est la grâce du baptême. Le jour de notre baptême, le terrain est parfaitement préparé. Parce que je baptise un enfant, lorsque l'eau du baptême tombe sur la tête de cet enfant qui devient enfant de Dieu par le baptême, la vertu de charité éclate dans cette âme. Il n'y a aucun obstacle. Parce qu'il n'y a pas encore l'usage de la volonté. Et donc cet enfant, l'âme de ce bébé, va devenir littéralement un bout de paradis. Il faut bien comprendre ça. Tout est parfait. Aucun refus à la grâce du bon Dieu. Un petit peu comme presque l'âme de la très sainte Vierge Marie. Malheureusement, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et lorsque l'enfant arrive à l'âge de raison, eh bien, il va falloir qu'il fasse un choix. Et on va voir chez cet enfant, au début, c'est le temple du Saint-Esprit sans aucun problème. Puis petit à petit, ça commence à dégringoler. Peut-être qu'au début, c'est une image qu'on peut prendre pour expliquer, on accepte le bon Dieu à 100%. Puis après, tenté par les sirènes du monde, par les tentations du monde, par les conséquences du péché originel qui sont en nous même après le baptême, par l'ignorance, la malice, la faiblesse, la concupiscence, eh bien on va répondre à 60%, puis peut-être à 30%. Et puis l'esprit du monde continue de travailler dans l'âme de ce bébé, de cet enfant qui grandit. Et puis, petit à petit, eh bien, la graine va finir par tomber en dehors du champ. Va tomber dans les ronces. Les pères de l'Église expliquent très bien que ces ronces qui empêchent la croissance de la graine représentent l'esprit du monde. Les richesses surtout, l'attraction des richesses, surtout la concupiscence des yeux. Concupiscence des yeux, c'est ce désir de tout avoir, toutes les choses matérielles qui se présentent à nous. Et ce qui fait que notre âme se remplit de choses matérielles, il n'y a plus de place pour le bon Dieu. Donc c'est comme si vous voyez une graine qui ne peut plus grandir, parce que plus elle cherche à se faufiler à travers les ronces, plus les épines des ronces vont piquer cette graine, cette plantule qui grandit, et évidemment rien ne peut pousser. Elle va mourir. Et malheureusement, avec l'adolescence qui arrive, souvent ça va plus loin que ça. La graine de la grâce va tomber carrément sur la pierre, puis même sur le chemin. Et là, elle va être foulée aux pieds par les passants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque l'âme devient ouverte à tous les vents. Donc elle ne cherche plus à protéger l'intérieur de son âme. On ouvre toutes les portes, toutes les fenêtres, n'importe qui peut rentrer là-dedans, c'est bien comme une caverne de voleurs. Et puis évidemment, n'importe qui peut rentrer dans la maison. Et du coup, n'importe qui peut faire n'importe quoi dans la maison. À ce moment, on perd tout. On perd tout, et c'est le symbole, si vous voulez, des gens qui ne cherchent plus à protéger leur âme par le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Alors évidemment, la grâce du bon Dieu disparaît. Mais le bon Dieu est plein de miséricorde. Regardez le texte de Saint Paul. Le bon Dieu nous donne sa grâce. Il le dit bien à Saint Paul. Il faut méditer sur ce texte extraordinaire de saint Paul. Regardez toute l'humilité de saint Paul, qui aurait pu cacher certaines choses. Il avait, nous dit ce texte de la première aux Corinthiens, il avait dans cet épître aux Corinthiens, il explique qu'il avait une tentation terrible. On ne sait pas laquelle. Les pères de l'Église en ont un peu parlé, mais ils ne savent pas très bien. Vraisemblablement, une très forte tentation contre la pureté. Et saint Paul, le grand saint Paul, trois fois demande au bon Dieu, délivrez-moi de cette tentation. Mais le bon Dieu savait que saint Paul deviendrait saint Paul grâce à cette tentation. Et qu'est-ce qu'il va lui répondre? Très bien, j'obéis à ta demande. Non, ma grâce vous suffit. Et le grand saint Paul n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait, parce que Dieu voulait autre chose qui était meilleure pour lui. Nous, on est un peu pareil. Mais le bon Dieu ne refuse pas sa grâce à qui la demande, avec humilité. Attention, ça ne veut pas dire, encore une fois, la grâce, c'est quelque chose de surnaturel. C'est un don surnaturel qui va nous aider à lutter contre les tentations. La grâce ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut. Le bon Dieu ne va pas obéir à toutes nos demandes, parce qu'il sait ce qui est meilleur pour nous. Et donc, quand il voit que cet enfant qui a été le temple du Saint-Esprit, que cette âme de bébé qui a été le temple du Saint-Esprit avec l'arrivée de l'adolescence, pas toujours, mais dans bien des cas, malheureusement, le péché est bien rentré dans l'âme. Et cette âme est devenue comme un caravansérail dans lequel n'importe qui peut rentrer. Et qu'est-ce que va faire le bon Dieu? Il va donner des grâces. Il va commencer par pousser l'âme à fermer les portes, fermer les fenêtres, pour que n'importe qui et n'importe quoi ne rentre pas dans cette âme. Et puis ensuite, il va donner d'autres grâces. Et la graine qui était tombée, qui était devenue comme tombant sur une pierre dure, c'est le symbole de la dureté de cœur, de l'orgueil, de l'égoïsme. Eh bien, cette graine va pouvoir travailler un petit peu plus parce que le bon Dieu va envoyer un coup de vent et la graine va quitter la pierre et va tomber dans le caniveau juste à côté. Alors là, il y a les ronces, je vous ai expliqué, les ronces, c'est le symbole de l'esprit du monde. Et quand l'esprit du monde est rentré dans notre âme, l'esprit du monde, c'est quoi? C'est les trois concupiscences, c'est la concupiscence des yeux, le désir de tout avoir, de tout regarder, la concupiscence de la chair, le désir des péchés d'impureté et l'orgueil. Eh bien, cet esprit du monde, c'est comme des épines qui rentrent dans la chair, on ne peut plus rien faire parce que dès qu'on cherche à se débattre, les épines rentrent encore plus profondément dans la chair. Mais Dieu est plein de volonté, et plein de bonne volonté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner d'autres grâces pour arracher cette âme qui s'est vautrée dans le monde. Il va l'arracher du monde, pas toujours. Il ne fait pas ça avec tout le monde. Le bon Dieu aime tous les hommes, mais la grâce du bon Dieu travaille avec notre libre arbitre. C'est le plus grand mystère du christianisme. Beaucoup de saints ont essayé de trouver une réponse à ça, il n'y en a pas. Comment est-il possible pour la toute-puissance de Dieu de respecter le libre-arbitre de chacun d'entre nous sans détruire ce libre-arbitre? Il y en a qui sont tombés dans le piège de pousser, si vous voulez, la toute-puissance de bon Dieu jusqu'à un tel point que pratiquement le libre-arbitre disparaît, ou au contraire, ceux qui sont tombés dans l'autre extrême qui consiste à pousser le libre-arbitre jusqu'à ce que la grâce du bon Dieu, la puissance de la grâce du bon Dieu disparaisse. Il faut garder les deux. Libre arbitre, toute puissance du bon Dieu. Justice, miséricorde. Et bon Dieu nous donne les grâces. Il va donner des grâces pour monter cette âme, la sortir du caniveau où l'âme ne peut pas vraiment grandir à cause des épines du monde. Il va la tirer, la sortir, sortir cette âme de l'esprit du monde et la mettre dans le bon champ. Et là, ce n'est pas encore la fin, attention. Parce qu'au début, peut-être que l'âme va donner du 30%. Mais Dieu est exigeant. Avec certaines âmes, ça suffit. Il ne demande pas plus. Avec d'autres âmes, il demande davantage. Donc il va donner d'autres grâces pour obtenir du 60% de cette âme. Et puis à d'autres grâces, à d'autres âmes, chaque âme est différente. Le bon Dieu va demander du 100%. Il faut que chaque grain en donne 100. 30. 60%, c'est pas assez pour cette âme. Et donc, le bon Dieu va monter cette âme au plus haut. Et une fois qu'on a atteint ce que le bon Dieu voulait pour nous, il ne faut pas se dire, bon, maintenant, sieste. je peux pas faire la sieste, maintenant j'ai atteint ce que le bon Dieu voulait, je vais enfin pouvoir me reposer. Pas question. Saint Thomas d'Aquin explique très bien ces choses-là dans ses commentaires sur la vertu de force. Il explique qu'au début, c'est un combat, ce qu'il appelle l'agrédi. Le mot agression vient de là. L'agrédi, c'est le combat pour se sortir du caniveau, se sortir du chemin sur lequel la bonne graine est tombée, se sortir de la pierre, se sortir du caniveau, et monter, et aller là où le bon Dieu nous veut. Le bon Dieu a jardinier notre âme. C'est lui qui met, qui place la graine là où il veut. Ce n'est pas nous qui choisissons. Dans un beau jardin, il y a tout. Il y a des belles roses, au milieu du jardin, roses magnifiques, tout le monde peut la voir, tout le monde peut la sentir, et tout le monde est attiré par cette rose. Ah, quelle est belle cette rose, tout le monde vient. Et puis c'est une pierre, une petite violette qui grande comme ça. On ne la voit même pas. On peut même marcher dessus sans la voir, parce qu'elle est toute petite. Elle sent bon aussi, mais il faut vraiment mettre le nez dessus pour sentir l'odeur. Alors, petite violette pourrait dire... Moi, j'aimerais bien être une rose quand même. Si j'étais une belle rose, tout le monde me regarderait. Et si personne ne me regarde, j'essaie de donner mon odeur, mon parfum, mais personne ne s'occupe de moi. Les gens marchent dessus parce qu'ils ne voient même pas où je suis. J'aimerais bien être une rose pour que tout le monde me regarde, tout le monde vienne m'admirer. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que le bon Dieu a donné à la première fleur la grâce d'être une bonne violette. Et à l'autre, il donne la grâce d'être une bonne rose. Et peut-être que la rose se dirait... Il y a toujours un monde fou autour de moi, tout le monde vient me voir, j'ai jamais la paix. Je voudrais bien être un peu en paix, être comme cette petite violette, elle est dans son coin, personne ne l'embête, elle peut faire la sieste toute la journée, c'est magnifique. Mais non. Parce que le bon Dieu demande à la rose d'être une grande rose, le bon Dieu demande d'être à la violette, une grande violette, et la violette qui remplit son devoir d'état avec la grâce d'être une bonne violette qu'elle a reçue du bon Dieu, va pouvoir aller au ciel, et au ciel peut-être aura une place encore plus belle que la rose, parce que le bon Dieu a donné à la rose d'autres grâces. Et donc, il faut faire attention à ça, vous voyez. Une fois qu'on a atteint le sommet, qu'on a fini de se battre, l'agrédit, saint Thomas dit, il reste la deuxième partie. Deuxième partie du don de force. Le soutenir, dit-il. Soutenir. On est arrivé au sommet, il faut rester là-haut. On est au sommet de la montagne. On a eu bien du mal pour monter jusqu'à là, on est au sommet de la montagne, maintenant, il faut rester là-haut, parce qu'il y a un vent qui va pousser, le froid qui va nous pousser, on risque de tomber, de descendre encore plus bas qu'on était auparavant. Donc, il faut rester là-haut, le soutenir, soutenir. Et saint Thomas explique, soutenir, c'est bien plus difficile que de se battre. Parce que soutenir, ça dure plus longtemps. Il faut rester en état de grâce au sommet de la montagne, là où le bon Dieu nous a placés, là où l'a voulu la fleur, et soutenir l'état de grâce. Pour ça, il nous donne toutes ses grâces. C'est ce qu'il a donné à saint Paul, ce qu'il nous donne à chacun d'entre nous. Il nous donne toutes les grâces, la foi, l'espérance, la charité, aussi les grâces qui correspondent aux vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance, l'obéissance, la pauvreté, la chasteté, toutes ces grâces, mais les grâces morales, les vertus morales. Et pour nous aider à rester et à patienter là-haut jusqu'au moment où il nous prendra avec lui au ciel. Mais le démon, quoi qu'il ait accepté ça, regardez le travail du démon sur saint Paul. Le démon va tout faire pour empêcher cette âme de persévérer dans la sainteté. La volonté du bon Dieu, c'est quoi? C'est notre sainteté personnelle. Et donc le démon va tout faire pour faire tomber, faire voler la graine qui est restée au sommet, qui s'accrochait comme un lichen sur le rocher, et va envoyer des vents très violents pour que la graine soit emportée par le vent et tombe dans la vallée, loin du bon Dieu. Alors, qu'est-ce que va faire le démon? Comment le démon s'y prend-il pour faire tomber quelqu'un qui est au sommet de la montagne pour le faire redescendre dans la vallée du monde? L'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance. Je ne servirai pas. C'est ça la formule magique du démon. Je ne servirai pas, non serviam. C'est ce qu'a dit le démon. C'est ce qu'a dit Lucifer lui-même. Je ne servirai pas. Vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, vous ne mourrez pas, et parce que vous êtes devenus comme des dieux, que vos yeux se sont ouverts, vous déciderez par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Liberté de conscience. Je décide par moi-même ce que je veux faire. Alors que c'est le bon Dieu qui décide. C'est Dieu qui nous a dit dans ses commandements, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Alors mes bien chers frères, il faut se rendre compte de ces choses-là. Le démon, il travaille. Il fait son boulot. Qu'est-ce qu'il est payé pour ça, en quelque sorte? Il est payé pour nous faire tomber du piédestal de gloire dans lequel le bon Dieu, sur lequel le bon Dieu nous a placés. Et donc, il va pousser à cet esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, c'est quoi? C'est une espèce de mélange d'orgueil et d'égoïsme. Et on le voit très bien avec des très grands saints qui ont tout perdu, parfois pendant un certain temps, parfois qu'on puisse se relever, parfois pas toujours. Et Sainte Marie-Madeleine, avant d'être sainte, regardez Saint Augustin, avant d'être un grand saint. Et parfois, il y a eu des gens qui ont reçu des grâces extraordinaires. Je pense par exemple à un Martin Luther, qui avait certainement reçu des grâces extraordinaires quand il était prédicateur en Allemagne, chez les Augustins, le moine Augustin. Il a tout perdu. Il y en a qui ont pu se relever, qui ne sont pas relevés. Arius ne s'est pas relevé. Luther ne s'est pas relevé. Alors, il faut vraiment se rendre compte. Je suis sur le sommet de la montagne. Le bon Dieu ait pitié de moi. Il m'a pris dans la fange de la boue du péché, la boue du monde. Il m'a monté sur la montagne. Il m'a placé là où il veut, très haut. Maintenant, c'est à moi de rester là-haut. Est-ce que je peux rester tout seul par la force, mes propres forces? Impossible. J'ai besoin de la grâce du bon Dieu. Donc, le bon Dieu va me donner les grâces pour que je puisse rester là-haut. À condition que je comprenne que c'est un don de Dieu. La catastrophe, c'est l'esprit d'indépendance. Quand je commence à dire, je vais faire les choses selon ma façon de voir. L'esprit d'indépendance, c'est la perte de tout. Les phénomènes, il y a des synonymes au mot esprit d'indépendance. On peut dire esprit protestant, c'est la même chose. L'esprit protestant est par définition même un esprit d'indépendance. C'est le sola scriptura de Martin Luther. Et j'interprète moi-même l'Écriture sainte selon ma volonté. Alors que l'Église catholique dit, on interprète l'Écriture sainte comme l'Église catholique l'a toujours interprétée pendant des siècles. Vous voyez comme toutes ces choses sont importantes. Alors comment lutter contre cet esprit d'indépendance? Parce qu'il ne faut pas croire que l'esprit d'indépendance ne travaille que pour les protestants, travaille aussi pour nous. Regardez les gens autour de vous. Regardez ces gens que vous avez connus qui ont peut-être été très bons catholiques il y a des années, qui ont aujourd'hui tout envoyé promener, tout perdu. Et ça peut nous arriver à nous, hein, on n'est pas plus malin que les autres, il ne faut pas croire. Comment justement détruire cet esprit d'indépendance? Comment détruire cet esprit d'indépendance? Eh bien, cet esprit d'indépendance va être détruit par trois amours. L'amour de la croix, l'amour de la Sainte Vierge et l'amour de la papauté. Et trois amours qui nous préservent de l'esprit d'indépendance. Qu'est-ce que c'est qu'un protestant? Un protestant, c'est quelqu'un qui déteste la croix, qui déteste la Sainte Vierge Marie, qui déteste la papauté. Qu'est-ce que c'est qu'un moderniste? Un moderniste, c'est quelqu'un qui déteste la croix, qui déteste la Sainte Vierge Marie, qui déteste la papauté. Esprit d'indépendance. Donc, au contraire, demandons au bon Dieu ces trois amours. D'abord, l'amour de la croix. Où se trouve l'amour de la croix? L'amour de la croix, c'est l'amour de la messe. C'est l'amour de la Sainte Messe. Est-ce que la Sainte Messe n'est rien d'autre que le renouvellement du sacrifice de la croix? Est-ce que je peux aimer la croix sans aimer la Sainte Messe? Impossible. C'est la très Sainte Messe, renouvellement non sanglant du sacrifice de Calvaire, qui va me donner l'amour de la croix. Voilà pourquoi qu'il y ait dans toutes nos familles catholiques, première chose, que quelqu'un qui rentre dans votre famille doit pouvoir voir dans votre maison, même quelqu'un à l'étranger, un facteur par exemple qui rentre et pour faire signer un papier pour un document, il faut qu'il puisse voir, je dirais, au centre de la maison, la croix, le crucifix. Et que cette croix soit non seulement au salon, mais soit aussi dans la chambre des enfants. Au-dessus du lit conjugal, pour que justement la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la croix qui nous a rachetés, la croix du mystère de la rédemption, soit au centre de la vie du chrétien, de la vie du catholique. Donc la première chose, c'est l'amour de la messe. Est-ce que vous avez l'amour de la messe? Est-ce que vous avez réussi à transmettre à vos enfants l'amour de la Sainte Messe? Si vous avez transmis cet amour de la Sainte Messe, bien sûr que toutes les portes sont ouvertes pour la sainteté. Mais si vous avez raté ce passage, les choses vont devenir très compliquées. demander à notre Seigneur Jésus-Christ cette grâce de l'amour de la Sainte Messe. Donc l'amour de la croix. Accepter d'être au pied de la croix, c'est pas facile, hein. Et les apôtres, Saint-Pierre et les autres apôtres, ils n'étaient pas au pied de la croix. Ils ont eu peur, justement, ils sont enfuis. Tous s'enfuirent, nous dit l'Évangile. Notre Sainte Vierge Marie, elle, au contraire, elle était là. Donc le deuxième amour, c'est l'amour de la Sainte Vierge, attention. On ne peut pas sauver notre Sainte Vierge, c'est impossible. Parce qu'elle est, justement, co-rédemptrice. Co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle elle va aider à l'accomplissement du mystère de la rédemption. Et l'accomplissement du mystère de la rédemption se fait par la croix, par la Sainte Messe. Voilà pourquoi le démon a tellement travaillé à partir de Martin Luther, et puis après, à la destruction de la messe. On peut dire simplement un repas partagé pour faire mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ... Ce n'est pas du tout un repas. La messe, c'est le renouvellement du sacrifice du calvaire. Notre Seigneur Jésus-Christ descend sur l'autel avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité qu'il avait sur la croix au moment de sa mort, le vendredi saint. Et donc, il faut demander l'amour de la très sainte Vierge Marie. Parce que là où est la mère, là est le fils. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Dieu n'a jamais voulu séparer sa mère de lui-même. C'est bien pour ça qu'il a voulu qu'elle monte avec lui au ciel, avec son corps. C'est le mystère de l'Assomption, la très sainte Vierge Marie, au 15 août. Et donc il faut demander l'amour de la très sainte Vierge Marie, parce que l'amour de la très sainte Vierge Marie est nécessaire pour avoir l'amour de la croix, donc l'amour de la messe. Donc dites votre chapelet bien tous les jours. Prenez le temps pour ça, pour justement que la très sainte Vierge Marie puisse vous guider, vous aider. Et le troisième amour qu'il ne faut pas oublier, c'est l'amour de la papauté. Dieu a voulu que son Église catholique, son Église divine, l'unique véritable Église en dehors de laquelle il ne peut pas y avoir de salut, soit fondée sur Saint-Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et donc le catholique est quelqu'un qui doit aimer la papauté. Et on voit très bien dans l'histoire de l'Église, depuis Saint-Pierre, toute cette gigantesque fresque de papes extraordinaires qui ont voulu garder le dépôt de la foi. Le pape, c'est ça. Le pape, c'est pas la quatrième personne de la Sainte Trinité. Le pape, c'est quelqu'un qui a pour fonction de garder le dépôt de la foi qui est clos à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean. Point final. Donc il est successeur de Saint-Pierre et représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape n'est pas quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut. Son rôle, garder le dépôt de la foi. Et on voit très bien dans l'histoire de l'Église comment la papauté a justement su conserver ce dépôt de la foi. Hélas, on est bien obligé de reconnaître malheureusement que depuis la mort du pape Pie XII, cette transmission ne s'est plus faite. Parce qu'ils ont voulu faire des choses nouvelles. Ils n'ont plus voulu garder le dépôt de la foi, ils ont voulu un nouveau dépôt. Les choses sont nouvelles. On entend parfois des gens nous dire, moi j'ai entendu ça, l'Église ne savait pas comment prêcher l'Évangile avant Vatican II. Ah bon? Alors un saint François Xavier ne savait pas comment prêcher l'Évangile, lui qui a baptisé 1 million de personnes. Un saint Dominique ne savait pas comment prêcher l'Évangile alors qu'il s'est promené dans tout le sud de la France pour justement convertir les gens. Bien non, justement, attention à ça, mais bien chauffé. Bien réalisé, il faut garder l'amour pour la papauté. Et donc, la troisième chose qu'il faudrait voir dans toutes les familles catholiques, il faut la croix, crucifix, il faut l'image de la très sainte Vierge Marie, et l'image d'un bon pape. Prenez l'image de Saint Pie X, prenez l'image de Pie XII, prenez l'image de Pie IX, si dans la deuxième partie de la chapelle, j'ai un très beau bus du pape Pie IX, un des plus grands papes de l'histoire de l'Église. En n'oubliant jamais ces choses-là, le pape est celui qui garde le dépôt de la foi. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui est pape de ne pas garder le dépôt de la foi? Bien sûr que non, puisque Dieu a promis que les forces du mal ne prévaudront point contre son Église. Donc si quelqu'un qui se prétend pape ne veut pas garder le dépôt de la foi, qui est clos à la mort de Saint Jean, c'est qu'il ne peut pas être pape, c'est tout simple. Voilà pourquoi il faut garder l'esprit de la papauté. Il faut garder l'amour de la papauté. On ne peut pas entendre des gens, moi j'entends parfois des traditionnalistes qui disent « on n'a pas besoin de pape ». Comment on n'a pas besoin de pape? Bien sûr qu'on a besoin d'un pape. Et plus que jamais aujourd'hui, on a besoin justement d'avoir quelqu'un à laquelle nous rattacher pour garder le chemin qui mène vers le bon Dieu. Voilà pourquoi il faut s'accrocher, s'attacher au magistère de l'histoire de l'Église. Et on voit très bien, en ce moment, je suis en train de retravailler une encyclique que je connaissais peu, l'encyclique Testem Benevolentiae du pape Léon XIII, 1899. La condamnation de ce qu'on appelait l'américanisme, c'est tout simplement le modernisme. Et on voit en 1899, donc avant même les condamnations du pape Saint-Pie X, les grandes condamnations du modernisme, que déjà tout ce qui est enseigné aujourd'hui depuis Rome, tout ça a été déjà condamné par Léon XIII. Alors demandons, mes bien chers frères, je voudrais conclure avec ça, je m'excuse d'être un peu long aujourd'hui, mais demandons cette grâce de garder en nos cœurs ce triple amour. L'amour de notre Sainte Vierge Marie, l'amour de la croix, l'amour de la papauté. Et à ce moment-là, le bon Dieu, qui va voir ce triple amour dans notre cœur, va nous donner l'esprit d'Église. L'esprit d'Église, c'est justement cet esprit qui est matérialisé par ce triple amour. L'amour de la croix, parce que c'est par la croix qu'on a été sauvés. L'amour de la très Sainte Vierge Marie, parce que la très Sainte Vierge Marie est la Mère de Dieu. Et l'amour du pape, l'amour de la papauté, parce que le pape est celui qui nous a été confié la colonne vertébrale de l'Église pour garder le dépôt de la foi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.